21 juin. Je coule des jours aussi heureux que ceux que Dieu réserve à ses élus. Quelque chose qui m'arrive désormais, je ne pourrais pas dire que je n'ai pas connu le bonheur le plus pur de la vie. Tu connais mon Valheim, j'y suis entièrement établie. De là, je n'ai qu'une demi-lieue jusqu'à Charlotte. Là, je me sens moi-même. Je jouis de toute la félicité qui a été donnée à l'homme. L'aurais-je pensé, quand je prenais ce Valheim pour but de mes promenades, qu'il était si près du ciel? Combien de fois dans mes longues courses, tantôt du haut de la montagne, tantôt de la plaine, au-delà de la rivière, ai-je aperçu ce pavillon qui renferme aujourd'hui tous mes vœux? Cher Valheim, j'ai réfléchi sur ce désir de l'homme de s'étendre, de faire de nouvelles découvertes, d'errer çà et là. Et aussi sur ce penchant intérieur à se restreindre volontairement, à se borner, à suivre l'ornière de l'habitude, sans plus s'inquiéter de ce qui est à droite et à gauche. C'est singulier. Lorsque je vins ici, et que de la colline je contemplais cette belle vallée, comme je me sentis attirée de toutes parts. Ici, le petit bois. Ah, si tu pouvais t'enfoncer sous son ombrage. Là, une cime de montagne. Ah, si de là, tu pouvais embrasser la vaste étendue. Cette chaîne de collines et ses paisibles vallons. Oh, que ne puis-je m'y égarer. J'y volais et je revenais sans avoir trouvé ce que je cherchais. Il en est de l'éloignement comme de l'avenir. Un horizon immense, mystérieux, repose devant notre âme. Le sentiment s'y plonge comme notre œil, et nous aspirons à donner toute notre existence pour nous remplir avec délices d'un seul sentiment, grand et majestueux. Nous courons, nous volons, mais, hélas, quand nous y sommes, quand le lointain est devenu proche, rien n'est changé, et nous nous retrouvons avec notre misère, avec nos étroites limites. Et de nouveau, notre âme soupire après le bonheur qui vient de lui échapper. Ainsi, le plus turbulent vagabond soupire à la fin après sa patrie et trouve dans sa cabane, auprès de sa femme, dans le cercle de ses enfants, dans les soins qu'il se donne pour leur nourriture, les délices qu'il cherchait vainement dans le vaste monde. Lorsque le matin, dès le lever du soleil, je me rends à mon cher Valheim, que je cueille moi-même mes petits pois dans le jardin de mon hôtesse, que je m'assieds pour les écosser en lisant Homère, que je choisis un pot dans la petite cuisine, que je coupe du beurre, mets mes pois au feu, les couvre et m'assieds auprès pour les remuer de temps en temps, alors, je sens vivement comment les fiers amants de Pénélope pouvaient tuer eux-mêmes, dépecer et faire rôtir les bœufs et les pourceaux. Il n'y a rien qui me remplisse d'un sentiment doux et vrai, comme ces traits de la vie patriarcale, dont je puis sans affectation, grâce à Dieu, entrelacer ma vie. Que je suis heureux d'avoir un cœur fait pour sentir la joie innocente et simple de l'homme qui met sur sa table le chou qu'il a lui-même élevé. Il ne jouit pas seulement du chou, mais il se représente à la fois la belle matinée où il le planta, les délicieuses soirées où il l'arrosa, et le plaisir qu'il éprouvait chaque jour en le voyant croître. 29 juin. Avant-hier, le médecin vint de la ville voir le bailli. Il me trouva à terre, entouré des enfants de Charlotte. Les uns grimpaient sur moi, les autres me pinçaient. Moi, je les chatouillais. Et tous ensemble, nous faisions un bruit épouvantable. Le docteur, véritable poupée savante, toujours occupé en parlant d'arranger les plis de ses manchettes et d'étaler un énorme jabot, trouva cela au-dessous de la dignité d'un homme sensé. Je m'en aperçus bien à sa mine. Je n'en fus point déconcerté. Je lui laissai débiter les choses les plus profondes et je relevai le château de cartes que les enfants avaient renversé. Aussi, de retour à la ville, le docteur n'a-t-il pas manqué de dire, à qui a voulu l'entendre, que les enfants du bailli n'étaient déjà que trop mal élevés, mais que ce Vartard achevait maintenant de les gâter tout à fait. Oui, mon ami, c'est aux enfants que mon cœur s'intéresse le plus sur la terre. Quand je les examine et que je vois dans ces petits êtres le germe de toutes les vertus, de toutes les facultés qu'ils auront si grand besoin de développer un jour, quand je développe dans leur opiniâtreté ce qui deviendra constance et force de caractère, quand je reconnais dans leur pétulance et leurs espiègleries même l'humeur gaie et légère qui les fera glisser à travers les écueils de la vie, et tout cela si franc, si pur, alors je répète sans cesse les paroles du maître. Si vous ne devenez semblable à l'un d'eux. Et cependant, mon ami, ces enfants, nos égaux, et que nous devrions prendre pour modèle, nous les traitons comme nos sujets. Il ne faut pas qu'ils aient des volontés. N'avons-nous pas les nôtres? Où donc est notre privilège? Est-ce parce que nous sommes plus âgés et plus sages? Dieu du ciel! Tu vois de vieux enfants et de jeunes enfants, et rien de plus. Et depuis longtemps, ton fils nous a fait connaître ceux qui te plaisent davantage. Mais il croit en lui et ne l'écoute point. C'est encore là une ancienne vérité. Et ils rendent leurs enfants semblables à eux-mêmes et... Adieu, Wilhelm, je ne veux pas radoter davantage là-dessus. 1er juillet. Tout ce que Charlotte doit être pour un malade, je le sens à mon pauvre cœur, bien plus souffrant que tel qui languit malade dans un lit. Elle va passer quelques jours à la ville, chez une excellente femme, qui, d'après l'aveu des médecins, approche de sa fin, et, dans ses derniers moments, veut avoir Charlotte auprès d'elle. J'allais, la semaine dernière, visiter avec elle le pasteur de Saint... petit village situé dans les montagnes, à une lieue d'ici. Nous arrivâmes sur les 4 heures, elle avait amené sa sœur cadette. Lorsque nous entrâmes dans la cour du presbytère, ombragée par 2 gros noyers, nous vîmes le bon vieillard assis sur un banc à la porte de sa maison. Dès qu'il aperçut Charlotte, il sembla reprendre une vie nouvelle. Il oublia son bâton noueux et se hasarda à venir au-devant d'elle. Elle courut à lui, le força de se rasseoir, se mit à ses côtés, lui présenta les salutations de son père et embrassa son petit garçon, un enfant gâté, quelque malpropre et désagréable qu'il fût. Si tu avais vu comme elle s'occupait du vieillard, comme elle élevait la voix pour se faire entendre de lui, car il est à moitié sourd, comme elle lui racontait la mort subite de jeunes gens robustes, comme elle vantait la vertu des eaux de Carlsbad en approuvant sa résolution d'y passer l'été prochain, comme elle trouvait qu'il avait bien meilleur visage et l'air plus vif depuis qu'elle ne l'avait vu. Pendant ce temps, j'avais rendu mes devoirs à la femme du pasteur. Le vieillard était tout à fait joyeux. Comme je ne pus m'empêcher de louer les beaux noyers qui nous prêtaient un ombrage si agréable, il se mit, quoiqu'avec quelques difficultés, à nous faire leur histoire. « Quant au vieux, dit-il, nous ignorons qui l'a planté. Les uns nomment tel pasteur, les autres tel autre. Mais le jeune est de l'âge de ma femme, 50 ans au mois d'octobre. Son père le planta le matin du jour de sa naissance. Elle vint au monde vers le soir. C'était mon prédécesseur. On ne peut dire combien cet arbre lui était cher. Il ne me l'est certainement pas moins. Ma femme tricotait, assise sur une poutre au pied de ce noyer. Lorsque, pauvre étudiant, j'entrai pour la première fois dans cette cour, il y a 27 ans. Charlotte lui demanda où était sa fille. On nous dit qu'elle était allée à Prairie avec M. Schmitt voir les ouvriers. Et le vieillard continua son récit. Il nous conta comment son prédécesseur l'avait prise en affection, comment il plut à la jeune fille, comment il devint d'abord le vicaire du père, et puis son successeur. Il venait à peine de finir son histoire lorsque sa fille, accompagnée de M. Schmitt, revint par le jardin. Elle fit à Charlotte l'accueil le plus empressé et le plus cordial. Je dois avouer qu'elle ne me déplut pas. C'est une petite brune, vive et bien faite, qui ferait passer agréablement le temps à la campagne. Son amant, car nous donnâmes tout de suite cette qualité à M. Schmitt, homme de bon ton mais très froid, ne se mêla point de notre conversation, quoique Charlotte l'y excitât sans cesse. Ce qui me fit le plus de peine, c'est que je crus remarquer, à l'expression de sa physionomie, que c'était plutôt par caprice ou mauvaise humeur que par défaut d'esprit qu'il se dispensait d'y prendre part. Cela devint bientôt plus clair. Car, dans un tour de promenade que nous fîmes, Frédéric s'étant attaché à Charlotte et se trouvant aussi quelquefois seul avec moi, le visage de M. Schmitt, déjà brun naturellement, se couvrit d'une teinte si sombre qu'il était temps que Charlotte me tirât par le bras et me fit signe d'être moins galant auprès de Frédéric. Rien ne me fait tant de peine que de voir les hommes se tourmenter mutuellement. Mais je souffre surtout quand des jeunes gens à la fleur d'âge, et dont le cœur serait disposé à s'ouvrir à tous les plaisirs, gâtent par des sottises le peu de jours qui leur sont réservés, sauf à s'apercevoir trop tard de l'irréparable abus qu'ils en ont fait. Cela m'agitait. Et lorsque, le soir, de retour au presbytère, nous prîmes le lait dans la cour, la conversation étant tombée sur les peines et les plaisirs de la vie, je ne pus m'empêcher de saisir cette occasion pour parler de toute ma force contre la mauvaise humeur. « Nous nous plaignons souvent, dis-je, que nous avons si peu de beaux jours et tant de mauvais. Il me semble que la plupart du temps nous nous plaignons à tort. » Si notre cœur était toujours ouvert au bien que Dieu nous envoie chaque jour, nous aurions alors assez de force pour supporter le mal quand il se présente. Mais nous ne sommes pas maîtres de notre humeur, dit la femme du pasteur. Combien elle dépend du corps, on est triste par tempérament, et quand on souffre, rien ne plaît, on est mal partout. Je lui accordai cela. Ainsi, traitons la mauvaise humeur, continuai-je, comme une maladie, et demandons-nous s'il n'y a point de moyen de guérison. Oui, dit Charlotte, et je crois que du moins nous y pouvons beaucoup. Je le sais par expérience. Si quelque chose me tourmente et que je me sens attristée, je cours au jardin. À peine ai-je chanté deux ou trois airs de danse en me promenant que tout est dissipé. « C'est ce que je voulais dire, repris-je. Il en est de la mauvaise humeur comme de la paresse, car c'est une espèce de paresse. Notre nature est fort encline à l'indolence. Et cependant, si nous avons la force de nous évertuer, le travail se fait avec aisance et nous trouvons un véritable plaisir dans l'activité. » Frédéric m'écoutait attentivement. Le jeune homme m'objecta que l'on n'était pas maître de soi-même, ou que du moins on ne pouvait pas commander à ses sentiments. « Il s'agit ici, répliquai-je, d'un sentiment désagréable dont chacun serait bien aise d'être délivré, et personne ne connaît l'étendue de ses forces avant de les avoir mises à l'épreuve. Assurément, un malade consultera tous les médecins, et il ne refusera pas le régime le plus austère, les potions les plus amères, pour recouvrer sa santé si précieuse. » Je vis que le bon vieillard s'efforçait de prendre part à notre discussion. J'élevai la voix en lui adressant la parole. « On prêche contre tant de vices, lui dis-je. Je ne sache point qu'on se croit occupé, en chair, de la mauvaise humeur. » « C'est au prédicateur des villes à le faire, répondit-il. Les gens de la campagne ne connaissent pas l'humeur. Il n'y aurait pourtant pas de mal d'en dire quelque chose de temps en temps. Ce serait une leçon pour nos femmes, au moins, et pour monsieur le bailli. » Tout le monde rit. Il rit lui-même de bon cœur, jusqu'à ce qu'il lui prît une toux qui interrompit quelque temps notre entretien. Le jeune homme reprit la parole. Vous avez nommé la mauvaise humeur un vice. Cela me semble exagéré. « Pas du tout, lui répondis-je. Si ce qui nuit à soi-même et au prochain mérite ce nom, n'est-ce pas assez que nous ne puissions pas nous rendre mutuellement heureux ? Faut-il encore nous priver les uns les autres du plaisir que chacun peut goûter au fond de son cœur ? Nommez-moi l'homme de mauvaise humeur qui possède assez de force pour la cacher, pour la supporter seule, sans troubler la joie de ceux qui l'entourent. Ou plutôt, la mauvaise humeur ne vient-elle pas d'un mécontentement de nous-mêmes, d'un dépit causé par le sentiment du peu que nous valons, auquel se joint l'envie excitée par une folle vanité ? Nous voyons des hommes heureux qui ne nous doivent rien de leur bonheur, et cela nous est insupportable. » Charlotte sourit de la vivacité de mes expressions. Une larme que j'aperçus dans les yeux de Frédéric m'excita à continuer. « Malheur à ceux, m'écriai-je, qui se servent du pouvoir qu'ils ont sur un cœur pour lui ravir les jouissances pures qui y germent d'elles-mêmes. Tous les présents, toutes les complaisances du monde ne dédommagent pas d'un moment de plaisir empoisonné par le dépit et l'odieuse conduite d'un tyran. » Mon cœur était plein dans cet instant. Mille souvenirs oppressaient mon âme et les larmes me vinrent aux yeux. « Si chacun de nous, m'écriai-je, se disait tous les jours, « Tu n'as d'autre pouvoir sur tes amis que de leur laisser leur plaisir et d'augmenter leur bonheur en le partageant avec eux. Est-il en ta puissance, lorsque leur âme est agitée par une passion violente ou flétrie par la douleur, d'y verser une goutte de consolation ? Et lorsque l'infortuné que tu auras miné dans ces beaux jours succombera enfin à sa dernière maladie, lorsqu'elle sera là, couchée devant toi, dans le plus triste abattement, qu'elle lèvera au ciel des yeux éteints et que la sueur de la mort séchera sur son front, que, debout devant son lit, comme un condamné, tu sentiras que tu ne peux rien faire avec tout ton pouvoir, que tu seras déchiré d'angoisse, et que vainement tu voudras tout donner pour faire passer dans cette pauvre créature mourante un peu de confortation, une étincelle de courage. » Le souvenir d'une scène semblable, dont j'ai été témoin, se retraçait à mon imagination dans toute sa force. Je portai mon mouchoir à mes yeux et je quittai la société. La voix de Charlotte qui me criait « Allons, partons !» me fit revenir à moi. Comme elle m'a grondé en chemin sur l'exaltation que je mets à tout. Que j'en serais victime, que je devais me ménager. Oh, cher ange, je veux vivre pour toi. 6 juillet. Elle est toujours près de sa mourante amie, et toujours la même. Toujours cet être bienfaisant, dont le regard adoucit les souffrances et fait des heureux. Hier soir, elle alla se promener avec Marianne et la petite Amélie. Je le savais, je les rencontrai et nous marchâmes ensemble. Après avoir fait près d'une lieue et demie, nous retournâmes vers la ville et nous arrivâmes à cette fontaine qui m'était déjà si chère et qui maintenant me l'est mille fois davantage. Charlotte s'assit sur le petit mur. Nous restâmes debout devant elle. Je regardais tout autour de moi et je sentis revivre en moi le temps où mon cœur était si seul. Fontaine chérie, dis-je en moi-même, depuis ce temps je ne me repose plus à ta douce fraîcheur, et quelquefois, en passant rapidement près de toi, je ne t'ai pas même regardé. Je regardais en bas, et je vis monter la petite Amélie tenant un verre d'eau avec grande précaution. Je contemplai Charlotte et sentis tout ce que j'ai placé en elle. Cependant, Amélie vint avec son verre. Marianne voulut le lui prendre. « Non !» s'écria l'enfant avec l'expression la plus aimable. « Non, c'est à toi, Charlotte, à boire la première !» Je fus si ravie de la vérité, de la bonté avec laquelle elle disait cela, que je ne pus rendre ce que j'éprouvais qu'en prenant la petite dans mes bras. Et en l'embrassant avec tant de force qu'elle se mit à pleurer et à crier. Vous lui avez fait mal, dit Charlotte. J'étais consternée. Viens, Amélie, continua-t-elle en la prenant par la main pour descendre les marches. Lave-toi dans l'eau fraîche. Vite, vite, ce ne sera rien. Je restais à regarder avec quel soin l'enfant se frottait les joues de ses petites mains mouillées et avec quelle bonne foi elle croyait que cette fontaine merveilleuse enlevait toute souillure et lui épargnerait la honte de se voir pousser une vilaine barbe. Charlotte avait beau lui dire « C'est assez !» La petite continuait toujours de se frotter, comme si beaucoup eût dû faire plus d'effet que peu. « Je t'assure, Willem, que je n'assistais jamais avec plus de respect à un baptême. Et lorsque Charlotte remonta, je me serais volontiers prosternée devant elle, comme devant un prophète qui vient d'effacer les iniquités d'une nation. Le soir, je ne pus m'empêcher, dans la joie de mon cœur, de raconter cette scène à un homme que je supposais sensible parce qu'il a de l'esprit. Mais je m'adressais bien. Il me dit que Charlotte avait eu grand tort, qu'il ne fallait jamais rien faire à croire aux enfants, que c'était donner naissance à une infinité d'erreurs et ouvrir la voie à la superstition, contre laquelle il fallait, au contraire, les prémunir de bonheur. Je me rappelais qu'il avait fait baptiser un de ses enfants il y a 8 jours. Je le laissais dire, et dans le fond de mon cœur, je restais fidèle à la vérité. Nous devons en user avec les enfants comme Dieu en use avec nous, lui qui ne nous rend jamais plus heureux que lorsqu'il nous laisse errer dans une douce illusion. 8 juillet. Que l'on est enfant! Quel prix on attache à un regard! Que l'on est enfant! Nous étions allés à Valheim. Les dames étaient en voiture. Pendant la promenade, je crus voir dans les yeux noirs de Charlotte. Je suis un fou, pardonne-moi. Il aurait fallu les voir, ses yeux. Pour en finir, car je tombe de sommeil, quand il fallut revenir, les dames montèrent en voiture. Le jeune W, Selstadt, Audran et moi, nous entourions le carrosse. On causa par la portière avec ces messieurs, qui sont pleins de légèreté et d'étourderie. Je cherchais les yeux de Charlotte. Ah, ils allaient de l'un à l'autre. Mais moi, qui étais entièrement, uniquement occupée d'elle, ils ne tombaient pas sur moi. Mon cœur lui disait 1000 adieux et elle ne me voyait point. La voiture partit et une larme vint mouiller ma paupière. Je la suivis des yeux et je vis sortir par la portière la coiffure de Charlotte. Elle se penchait pour regarder. Hélas, était-ce moi ? Mon ami, je flotte dans cette incertitude. C'est là ma consolation. Peut-être me cherchait-elle du regard. Peut-être. Bonne nuit. Oh, que je suis enfant. 10 juillet. Quelle sotte figure je fais en société lorsqu'on parle d'elle. Si tu me voyais quand on me demande gravement si elle me plaît. Plaire. Je hais ce mot à la mort. Quel homme se doit être que celui à qui Charlotte plaît, dont elle ne remplit pas tous les sens et tout l'être. Plaire. Dernièrement, quelqu'un me demandait si Ossian me plaisait. 11 juillet. Madame M est fort mal. Je prie pour sa vie, car je souffre avec Charlotte. Je vois quelquefois Charlotte chez une amie. Elle m'a fait aujourd'hui un singulier récit. Le vieux M est un vilain avare qui a bien tourmenté sa femme pendant toute sa vie et qui la tenait serrée de fort près. Elle a cependant toujours su se tirer d'affaire. Il y a quelques jours, lorsque le médecin l'eut condamnée, elle fit appeler son mari en présence de Charlotte et elle lui parla ainsi. « Il faut que je t'avoue une chose qui, après ma mort, pourrait causer de l'embarras et du chagrin. J'ai conduit jusqu'à présent notre ménage avec autant d'ordre et d'économie qu'il m'a été possible. Mais il faut que tu me pardonnes de l'avoir trompée pendant 30 ans. le commencement de notre mariage, tu fixas une somme très modique pour la table et les autres dépenses de la maison. Notre ménage devint plus fort, notre commerce s'étendit. Je ne pus jamais obtenir que tu augmentasses en proportion la somme fixée. Tu sais que dans le temps de nos plus grandes dépenses, tu exigeas qu'elles fussent couvertes avec 7 florins par semaine. Je me soumis. Mais chaque semaine, je prenais le surplus dans ta caisse, ne craignant pas qu'on soupçonnât la maîtresse de la maison de voler ainsi chez elle. Je n'ai rien dissipé. Pleine de confiance, je serais allée au-devant de l'éternité sans faire cet aveu. Mais celle qui dirigera le ménage après moi n'aurait pu se tirer d'affaire avec le peu que tu lui aurais donné, et tu aurais toujours soutenu que ta première femme n'avait pas eu besoin de plus. Je m'entretins avec Charlotte de l'inconcevable aveuglement de l'esprit humain. Il est incroyable qu'un homme ne soupçonne pas quelques 2 sous de carte lorsqu'avec 7 florins on fait face à des dépenses qui doivent monter au double. J'ai cependant connu des personnes qui ne se seraient pas étonnées de voir dans leur maison l'inépuisable cruche d'huile du prophète. 15 juillet. Non. Je ne me trompe pas. Je lis dans ses yeux noirs le sincère intérêt qu'elle prend à moi et à mon sort. Oui, je sens, et là-dessus je puis m'en rapporter à mon cœur. Je sens qu'elle... Oh, l'oserais-je ? Oserais-je prononcer ce mot qui vaut le ciel ? Elle m'aime. Elle m'aime. Combien je me deviens chère à moi-même ! Combien... J'ose te le dire à toi, tu m'entendras. Combien je m'adore depuis qu'elle m'aime. Est-ce présomption, témérité, ou ai-je bien le sentiment de ma situation? Je ne connais pas l'homme que je craignais de rencontrer dans le cœur de Charlotte. Et pourtant, lorsqu'elle parle de son prétendu avec tant de chaleur, avec tant d'affection, je suis comme celui à qui l'on enlève ses titres et ses honneurs, et qui est forcé de rendre son épée. 16 juillet. Oh, quel feu court dans toutes mes veines lorsque par hasard mon doigt touche le sien, lorsque nos pieds se rencontrent sous la table. Je me retire comme du feu, mais une force secrète m'attire de nouveau. Il me prend un vertige, le trouble est dans tous mes sens. Ah, son innocence, la pureté de son âme ne lui permettent pas de concevoir combien les plus légères familiarités me mettent à la torture. Lorsqu'en parlant, elle pose sa main sur la mienne, que dans la conversation elle se rapproche de moi, que son haleine peut atteindre mes lèvres, alors je crois que je vais m'anéantir, comme si j'étais frappée de la foudre. Et, Wilhelm, si j'osais jamais, cette pureté du ciel, cette confiance, tu me comprends? Non, mon cœur n'est pas si corrompu, mais faible, bien faible, et n'est-ce pas là de la corruption? Elle est sacrée pour moi, tout désir se tait en sa présence. Je ne sais ce que je suis quand je suis auprès d'elle. C'est comme si mon âme se versait et coulait dans tous mes nerfs. Elle a un air qu'elle joue sur le clavecin avec la suaveté d'un ange. Si simplement et avec tant d'âme. C'est son air favori et il me remet de toute peine, de tout trouble, de toute idée sombre, dès qu'elle en joue seulement la première note. Aucun prodige de la puissance magique que les anciens attribuaient à la musique ne me paraît maintenant invraisemblable. Ce simple chant a sur moi tant de puissance. Et comme elle sait me le faire entendre à propos, dans des moments où je serais homme à me tirer une balle dans la tête. Alors, l'égarement et les ténèbres de mon âme se dissipent et je respire de nouveau plus librement. 18 juillet. Wilhelm, qu'est-ce que le monde pour notre cœur sans l'amour? Ce qu'une lanterne magique est sans lumière. À peine y introduisez-vous le flambeau qu'aussitôt les images les plus variées se peignent sur la muraille. et lors même que tout cela ne serait que fantôme. Encore ces fantômes font-ils notre bonheur quand nous nous tenons là, éveillés, et que, comme des enfants, nous nous extasions sur ces apparitions merveilleuses. Aujourd'hui, je ne pouvais aller voir Charlotte, j'étais emprisonnée dans une société d'où il n'y avait pas moyen de m'échapper. Que faire ? J'envoyais chez elle mon domestique, afin d'avoir au moins près de moi quelqu'un qui eût approché d'elle dans la journée. Avec quelle impatience j'attendais son retour, avec quelle joie je le revis. Si j'avais osé, je me serais jetée à son cou et je l'aurais embrassée. On prétend que la pierre de Bologne, exposée au soleil, se pénètre de ses rayons et éclaire quelque temps dans la nuit. Il en était ainsi pour moi de ce jeune homme. L'idée que les yeux de Charlotte s'étaient arrêtés sur ses traits, sur ses joues, sur les boutons et le collet de son habit, me rendait tout cela si cher, si sacré. Je n'aurais pas donné ce garçon pour 1000 écus. Sa présence me faisait tant de bien. Dieu te préserve d'en rire, Wilhelm. Sont-ce là des fantômes ? Est-ce une illusion que d'être heureux ? 19 juillet. Je la verrai. Voilà mon premier mot lorsque je m'éveille, et qu'avec sérénité je regarde le beau soleil levant. Je la verrai. Et alors je n'ai plus pour toute la journée aucun autre désir. Tout va là, tout s'engouffre dans cette perspective. 20 juillet. Votre idée de me faire partir avec l'ambassadeur de ne sera pas encore la mienne. Je n'aime pas la dépendance, et de plus, tout le monde sait que cet homme est des plus difficiles à vivre. Ma mère, dis-tu, voudrait me voir une occupation ? Cela m'a fait rire. Ne suis-je donc pas occupée à présent ? Et au fond, n'est-ce pas la même chose que je compte des pois ou des lentilles ? Tout dans cette vie aboutit à des niaiseries, et celui qui, pour plaire aux autres, sans besoin et sans goût, se tue à travailler pour de l'argent, pour des honneurs, ou pour tout ce qu'il vous plaira, est à coup sûr un imbécile. 24 juillet. Puisque tu tiens tant à ce que je ne néglige pas le dessin, je ferais peut-être mieux de me taire sur ce point que de t'avouer que depuis longtemps je m'en suis bien peu occupé. Jamais je ne fus plus heureux. Jamais ma sensibilité pour la nature, jusqu'aux cailloux, jusqu'aux brins d'herbe, ne fut plus pleine et plus vive. Et cependant, je ne sais comment m'exprimer. Mon imagination est devenue si faible, tout nage et vacille tellement devant mon âme que je ne puis saisir un contour. Mais je me figure que si j'avais de l'argile ou de la cire, je réussirais mieux. Si cela dure, je prendrai de l'argile et je la pétrirai. Dussé-je ne faire que des boulettes. J'ai commencé déjà 3 fois le portrait de Charlotte, et 3 fois je me suis fait honte. Cela me chagrine d'autant plus qu'il y a peu de temps, je réussissais fort bien à saisir la ressemblance. Je me suis donc bornée à prendre sa silhouette, et il faudra bien que je m'en contente. 26 juillet. Oui, chère Charlotte, je m'acquitterai de tout. Seulement, donnez-moi plus souvent des commissions, donnez-m'en bien souvent. Je vous prie d'une chose, plus de sable sur les billets que vous m'écrivez. Aujourd'hui, je portais vivement votre lettre à mes lèvres et le sable craqua sous mes dents. 26 juillet. Je me suis déjà proposé bien des fois de ne pas la voir si souvent. Mais le moyen de tenir cette résolution. Tous les jours, je succombe à la tentation. Tous les soirs, je me dis avec un serment, « Demain, tu ne la verras pas. » Et lorsque le matin arrive, je trouve quelque raison invincible de la voir. Et, avant que je m'en aperçoive, je suis auprès d'elle. Tantôt, elle m'a dit le soir, « Vous viendrez demain, n'est-ce pas ?» Qui pourrait ne pas y aller ? Tantôt, elle m'a donné une commission et je trouve qu'il est plus convenable de lui porter moi-même la réponse. Ou bien, la journée est si belle, je vais à Valham. Et quand j'y suis, il n'y a plus qu'une demi-lieue jusque chez elle. Je suis trop près de son atmosphère. Son voisinage m'attire et m'y voilà encore. Ma grand-mère nous faisait un conte d'une montagne d'aimants. Les vaisseaux qui s'en approchaient trop perdaient tout à coup leur ferment. Les clous volaient à la montagne et les malheureux matelots s'abîmaient entre les planches qui croulaient sous leurs pieds. 30 juillet. Albert est arrivé et moi, je vais partir. Fût-il le meilleur, le plus généreux des hommes, et lors même que je serais disposée à reconnaître sa supériorité sur moi à tous égards, il me serait insupportable de le voir posséder sous mes yeux tant de perfection. Posséder, il suffit, mon ami, le prétendu est arrivé. C'est un homme honnête et bon qui mérite qu'on l'aime. Heureusement, je n'étais pas présent à sa réception. J'aurais eu le cœur trop déchiré. Il est si bon qu'il n'a pas encore embrassé une seule fois Charlotte en ma présence. Que Dieu l'en récompense. Rien que le respect qu'il témoigne à cette jeune femme me force à l'aimer. Il semble me voir avec plaisir, et je soupçonne que c'est l'ouvrage de Charlotte, plutôt que l'effet de son propre mouvement. Car là-dessus, les femmes sont très adroites, et elles ont raison. Quand elles peuvent entretenir deux adorateurs en bonne intelligence, quelque rare que cela soit, c'est tout profit pour elles. Du reste, je ne puis refuser mon estime à Albert. Son calme parfait contraste avec ce caractère ardent et inquiet que je ne puis cacher. Il est homme de sentiment et apprécie ce qu'il possède en Charlotte. Il paraît peu sujet à la mauvaise humeur, et tu sais que, de tous les défauts des hommes, c'est celui que je hais le plus. Il me considère comme un homme qui a quelques mérites. Mon attachement pour Charlotte, le vif intérêt que je prends à tout ce qui la touche, augmente son triomphe, et il l'en aime d'autant plus. Je n'examine pas si quelquefois il ne la tourmente point par quelque léger accès de jalousie. À sa place, j'aurais au moins de la peine à me défendre entièrement de ce démon. Quoi qu'il en soit, le bonheur que je goûtais près de Charlotte a disparu. Est-ce folie? Est-ce stupidité? Qu'importe le nom, la chose parle assez d'elle-même. Avant l'arrivée d'Albert, je savais tout ce que je sais maintenant. Je savais que je n'avais point de prétention à former sur elle, et je n'en formais aucune. J'entends autant qu'il est possible de ne rien désirer à la vue de tant de charme. Et aujourd'hui, l'imbécile s'étonne et ouvre de grands yeux, parce que l'autre arrive, en effet, et lui enlève la belle. Je grince des dents et je m'indigne contre ceux qui peuvent dire qu'il faut que je me résigne, puisque la chose ne peut être autrement. Délivrez-moi de ces automates. Je cours les forêts et lorsque je reviens près de Charlotte, que je trouve Albert auprès d'elle dans le petit jardin, sous le berceau, et que je me sens forcée de ne pas aller plus loin, je deviens fou allié et je fais mille extravagances. Pour l'amour de Dieu, me disait Charlotte aujourd'hui, je vous en prie, plus de scènes comme celle d'hier soir. Vous êtes effrayant quand vous êtes si gai. Entre nous, j'épie le moment où les affaires appellent Albert au dehors. Aussitôt je suis près d'elle, et je suis toujours content quand je la trouve seule. 8 août. De grâce, mon cher Wilhelm, ne crois pas que je pensais à toi quand je traitais d'insupportables les hommes qui exigent de nous de la résignation dans les maux inévitables. Je n'imaginais pas, en vérité, que tu pusses être de cette opinion. Et pourtant, au fond, tu as raison. Seulement une observation, mon cher. Dans ce monde, il est très rare que tout aille par oui ou par non. Il y a dans les sentiments et la manière d'agir autant de nuances qu'il y a de degrés depuis le nez aquilin jusqu'au nez Camus. Tu ne trouveras donc pas mauvais que, tout en reconnaissant la justesse de ton argument, j'échappe pourtant à ton dilemme. Ou tu as quelque espoir de réussir auprès de Charlotte, dis-tu, ou tu n'en as point. Bien. Dans le premier cas, cherche à réaliser cet espoir et à obtenir l'accomplissement de tes vœux. Dans le second, ranime ton courage et délivre-toi d'une malheureuse passion qui finira par consumer tes forces. Mon ami, cela est bien dit, et bientôt dit. Et ce malheureux, dont la vie s'éteint, miné par une lente et incurable maladie, peux-tu exiger de lui qu'il mette fin à ses tourments par un coup de poignard? Et le mal, qui dévore ses forces, ne lui ôte-t-il pas en même temps le courage de s'en délivrer? Tu pourrais, à la vérité, m'opposer une comparaison du même genre. Qui n'aimerait mieux se faire amputer un bras que de risquer sa vie par peur et par hésitation? Je ne sais pas trop. Mais ne nous jetons pas de comparaison à la tête, en voilà bien assez. Oui, mon ami, il me prend quelquefois un accès de courage exalté, sauvage. Et alors, si je savais seulement où, j'irais. Le même jour, au soir. Mon journal, que je négligeais depuis quelque temps, m'est tombé aujourd'hui sous la main. J'ai été étonnée de voir que c'est bien sciemment que j'ai fait pas à pas tant de chemin. J'ai toujours vu si clairement ma situation. Et je n'en ai pas moins agi comme un enfant. Aujourd'hui, je vois tout aussi clair. Et il n'y a pas plus d'apparence que je me corrige. 10 août. Je pourrais mener la vie la plus douce, la plus heureuse, si je n'étais pas un fou. Des circonstances aussi favorables que celles où je me trouve se réunissent rarement pour rendre un homme heureux. Tant il est vrai que c'est notre cœur seul qui fait son malheur ou sa félicité. Être membre de la famille la plus aimable, me voir aimer du père comme un fils, des jeunes enfants comme un père, et de Charlotte. Et cet excellent Albert, qui ne trouble mon bonheur par aucune marque d'humeur, qui m'accueille si cordialement, pour qui je suis, après Charlotte, ce qu'il aime le mieux au monde. Mon ami, c'est un plaisir de nous entendre lorsque nous nous promenons ensemble et que nous nous entretenons de Charlotte. On n'a jamais rien imaginé de plus ridicule que notre situation. Et cependant, dans ces moments, plus d'une fois les larmes me viennent aux yeux. Quand il me parle de la digne mère de Charlotte, quand il me raconte comment, en mourant, elle remit à sa fille son ménage et ses enfants, et lui recommanda sa fille à lui-même, comment dès lors un nouvel esprit anima Charlotte, comment elle est devenue, pour les soins du ménage, et de toute manière une véritable mère, comment aucun instant ne se passe pour elle sans sollicitude et sans travail, et comment sa vivacité, sa gaieté ne l'ont pourtant jamais quittée. Alors, je marche nonchalamment à côté de lui, et je cueille des fleurs sur le chemin. Je les réunis soigneusement dans un bouquet, et je les jette dans le torrent, et je les suis de l'œil pour les voir enfoncer petit à petit. Je ne sais si je t'ai écrit qu'Albert restera ici et qu'il va obtenir de la cour, où il est très bien vu, un emploi dont le revenu est fort honnête. Pour l'ordre et l'aptitude aux affaires, j'ai rencontré peu de personnes qu'on pu lui comparer. 12 août. En vérité, Albert est le meilleur homme qui soit sous le ciel. J'ai eu hier avec lui une singulière scène. J'étais allée le voir pour prendre congé de lui, car il m'avait pris fantaisie de faire un tour à cheval dans les montagnes. Et c'est même de là que j'écris en ce moment. En allant et venant dans sa chambre, j'aperçus ses pistolets. « Prêtez-moi vos pistolets pour mon voyage, » lui dis-je. « Je ne demande pas mieux, » répondit-il. « Mais vous prendrez la peine de les charger, ils ne sont là que pour la forme. » J'en détachai un et il continua. Depuis que ma prévoyance m'a joué un si mauvais tour, je ne veux plus rien avoir à démêler avec de pareilles armes. » Je fus curieux de savoir ce qui lui était arrivé. « J'étais allé, reprit-il, passer 3 mois à la campagne, chez un de mes amis. J'avais une paire de pistolets non chargés et je dormais tranquille. Un après-midi, que le temps était pluvieux et que j'étais à ne rien faire, je ne sais comment il me vint dans l'idée que nous pourrions être attaqués, que je pourrais avoir besoin de mes pistolets et que... Vous savez comment cela va. Je les donnai aux domestiques pour les nettoyer et les charger. Il se mit à badiner avec la servante en cherchant à lui faire peur et, Dieu sait comment, le pistolet part. La baguette étant encore dans le canon, la baguette va frapper la servante à la main droite et lui fracasse le pouce. J'eus à supporter les cris, les lamentations, et il me fallut encore payer le traitement. Aussi, depuis cette époque, mes armes ne sont-elles jamais chargées. Voyez, mon cher, à quoi sert la prévoyance ? On ne voit jamais le danger. Cependant, tu sais que j'aime beaucoup Albert, mais je n'aime pas ces « cependant ». Car n'est-il pas évident que toute règle générale a des exceptions ? Mais telle est la scrupuleuse équité de cet excellent homme. Quand il croit avoir avancé quelque chose d'exagéré, de trop général ou de douteux, il ne cesse de limiter, de modifier, d'ajouter ou de retrancher, jusqu'à ce qu'il ne reste plus rien de sa proposition. À cette occasion, il se perdit dans son texte. Bientôt, je n'entendis plus un mot de ce qu'il disait. Je tombais dans des rêveries. Puis tout à coup, je m'appliquai brusquement la bouche du pistolet sur le front, au-dessus de l'œil droit. « Fi !» dit Albert en me reprenant l'arme. « Que signifie cela ?» « Il n'est pas chargé, » lui répondis-je. « Et s'il l'était, à quoi bon ? » ajouta-t-il avec impatience. « Je ne puis concevoir comment un homme peut être assez fou pour se brûler la cervelle. L'idée seule m'en fait horreur. « Vous autres hommes, » m'écriai-je, « vous ne pouvez parler de rien sans dire tout d'abord « Cela est fou, cela est sage, cela est bon, cela est mauvais. Qu'est-ce que cela veut dire ? » Avez-vous approfondi les véritables motifs d'une action ? Avez-vous démêlé les raisons qui l'ont produite, qui devaient la produire ? Si vous aviez fait cela, vous ne seriez pas si prompte dans vos jugements. Vous conviendrez, dit Albert, que certaines actions sont et restent criminelles, quels qu'en soient les motifs. Je haussai les épaules et je lui accordai ce point. Cependant, mon cher, continuai-je, il se trouve encore ici quelques exceptions. Sans aucun doute, le vol est un crime. Mais l'homme, qui, pour s'empêcher de mourir de faim, lui et sa famille, se laisse entraîner au vol, mérite-t-il la pitié ou le châtiment ? Qui jettera la première pierre à l'époux outragé, qui, dans sa juste fureur, immole une femme infidèle et son vil séducteur ? À cette jeune fille qui, dans un moment de délire, s'abandonne aux charmes entraînants de l'amour ? Nos lois mêmes, ces froides pédantes, se laissent toucher et retiennent leur coup. « Ceci est autre chose, reprit Albert, car un homme emporté par une passion trop forte perd la faculté de réfléchir et doit être regardé comme un homme ivre ou comme un insensé. « Voilà bien, mes gens raisonnables, » m'écriai-je en souriant. « Passion, ivresse, folie, hommes moraux, vous êtes d'une impassibilité merveilleuse. Vous injuriez l'ivrogne ? Vous vous détournez de l'insensé ? Vous passez outre comme le prêtre et remerciez Dieu comme le pharisien de ce qu'il ne vous a pas fait semblables à l'un d'eux. J'ai été plus d'une fois pris de vin. Et souvent mes passions m'ont approché de la démence, et je ne me repens ni de l'un ni de l'autre, car j'ai appris à concevoir comment tous les hommes extraordinaires qui ont fait quelque chose de grand, quelque chose qui semblait impossible, ont dû de tout temps être déclarés par la foule ivres et insensés. Et dans la vie ordinaire même, n'est-il pas insupportable d'entendre dire « Quand un homme fait une action tant soit peu honnête, noble et inattendue, cet homme est ivre ou fou. Rougissez, car c'est à vous de rougir, vous qui n'êtes ni ivre ni fou. Voilà encore de vos extravagances, dit Albert. Vous exagérez tout. Et à coup sûr, vous avez ici au moins le tort d'assimiler le suicide, dont il est question maintenant, aux actions qui demandent de l'énergie, tandis qu'on ne peut le regarder que comme une faiblesse. Car, de bonne foi, il est plus aisé de mourir que de supporter avec constance une vie pleine de tourments. Peu s'en fallut que je ne rompisse l'entretien. Car rien ne me met hors des gonds comme de voir quelqu'un venir avec un lieu commun insignifiant lorsque je parle de cœur. Je me retins cependant. J'avais déjà si souvent entendu ce lieu commun et je m'en étais indigné tant de fois. Je lui répliquai avec un peu de vivacité. « Vous appelez cela faiblesse ? Je vous en prie, ne vous laissez pas séduire par l'apparence. Un peuple gémit sous le joug insupportable d'un tyran. Oserez-vous l'appeler faible lorsqu'enfin il se lève et brise ses chaînes ? Cet homme qui voit les flammes menacer sa maison et dont la frayeur tend tous les muscles, qui enlève aisément des fardeaux que de sang-froid il aurait à peine remués. Cet autre qui, furieux d'un outrage, attaque 6 hommes et les terrasse. Oserez-vous bien les appeler faibles ? Eh, mon ami, si des efforts sont de la force, comment des efforts extrêmes seraient-ils le contraire ? Albert me regarda et dit « Je vous demande pardon, mais les exemples que vous venez de citer ne me semblent point applicables ici. »« C'est possible, » repartis-je. « On m'a déjà souvent reproché que mes raisonnements touchaient au radotage. » Voyons donc si nous ne pourrons pas nous représenter d'une autre manière ce qui doit se passer dans l'âme d'un homme qui se détermine à rejeter le fardeau de la vie, ce fardeau si cher à d'autres. Car nous n'avons vraiment le droit de juger une chose qu'autant que nous la comprenons. La nature humaine a ses bornes, continuai-je. Elle peut, jusqu'à un certain point, supporter la joie, la peine, la douleur. Ce point passé, elle succombe. La question n'est donc pas de savoir si un homme est faible ou s'il est fort, mais s'il peut soutenir le poids de ses souffrances, qu'elles soient morales ou physiques. Et je trouve aussi étonnant que l'on nomme lâche le malheureux qui se prive de la vie, que si l'on donnait ce nom au malade qui succombe à une fièvre maligne. « Voilà un étrange paradoxe !» s'écria Albert. « Cela est plus vrai que vous ne croyez, » répondis-je. Vous conviendrez que nous qualifions de maladie mortelle celle qui attaque le corps avec tant de violence que les forces de la nature sont en partie détruites, en partie affaiblies, en sorte qu'aucune crise salutaire ne peut plus rétablir le cours ordinaire de la vie. Eh bien, mon ami, appliquons ceci à l'esprit. Regardez l'homme dans sa faiblesse, voyez comme des impressions agissent sur lui, comme des idées se fixent en lui, jusqu'à ce qu'enfin la passion toujours croissante le prive de toute force de volonté et le perde. Et vainement un homme raisonnable et de sang-froid, qui contemplera l'état de ce malheureux, lui donnera-t-il de beaux conseils ? Il ne lui sera pas plus utile que l'homme sain ne l'est au malade, à qui il ne saurait communiquer la moindre partie de ses forces. J'avais trop généralisé mes idées pour Albert. Je lui rappelai une jeune fille que l'on trouva morte dans l'eau, il y a quelque temps. Je lui répétai son histoire. C'était une bonne créature, tout entière à ses occupations domestiques, travaillant toute la semaine et n'ayant d'autre plaisir que de se parer le dimanche de quelques modestes atours achetés à grand-peine, d'aller avec ses compagnes se promener aux environs de la ville ou de danser quelquefois aux grandes fêtes, et qui quelquefois aussi passait une heure de loisir à causer avec une voisine au sujet d'une rixe ou d'une médisance. Enfin, la nature lui fait sentir d'autres besoins qui s'accroissent encore par les flatteries des hommes. Ses premiers plaisirs lui deviennent peu à peu insipides jusqu'à ce qu'elle rencontre un homme vers lequel un sentiment inconnu l'entraîne irrésistiblement, sur lequel elle fonde toutes ses espérances, pour lequel tout le monde autour d'elle est oublié. Elle ne voit plus, n'entend plus, ne désire plus que lui seul. Comme elle n'est pas corrompue par les frivoles jouissances de la vanité et de la coquetterie, ses désirs vont droit au but. Elle veut lui appartenir. Elle veut devoir à un lien éternel le bonheur qu'elle cherche et tous les plaisirs après lesquels elle aspire. Des promesses réitérées qui mettent le sceau à toutes ses espérances, de téméraires caresses qui augmentent ses désirs, s'emparent de toute son âme. Elle nage dans un délicieux sentiment d'elle-même, dans un avant-goût de tous les plaisirs. Elle est montée au plus haut. Elle tend enfin ses bras pour embrasser tous ses désirs. Et son amant l'abandonne. La voilà glacée, privée de connaissance, devant un abîme. Tout est obscurité autour d'elle. Aucune perspective, aucune consolation, aucun bon pressentiment. Car celui-là l'a délaissée, dans lequel seule elle sentait son existence. Elle ne voit point le vaste univers qui est devant elle, ni le nombre de ceux qui pourraient remplacer la perte qu'elle a faite. Aveuglée, accablée de l'excessive peine de son cœur, elle se précipite, pour étouffer tous ses tourments, dans une mort qui tout embrasse et tout termine. Voilà l'histoire de bien des hommes. Dites-moi, Albert, n'est-ce pas la même marche que celle de la maladie ? La nature ne trouve aucune issue pour sortir du labyrinthe des forces déréglées et agissantes en sens contraire. Et l'homme doit mourir. Malheur à celui qui oserait dire « l'insensé ! Si elle eût attendu, si elle eût laissé agir le temps, son désespoir se serait calmé. Elle aurait trouvé bientôt un consolateur. » C'est comme si l'on disait « l'insensé qui meurt de la fièvre ! S'il avait attendu que ses forces fussent revenues, que son sang fût purifié, tout se serait rétabli et il vivrait encore aujourd'hui. » Albert, qui ne trouvait point encore cette comparaison frappante, me fit des objections, entre autres celle-ci. Je venais de citer une jeune fille simple et bornée, mais il ne pouvait concevoir comment on excuserait un homme d'esprit dont les facultés sont plus étendues et qui saisit mieux tous les rapports. « Mon ami, m'écriai-je, l'homme est toujours l'homme. La petite dose d'esprit que l'un a de plus que l'autre fait bien peu dans la balance quand les passions bouillonnent et que les bornes prescrites à l'humanité se font sentir. Il y a plus, mais nous en parlerons un autre jour, » lui dis-je en prenant mon chapeau. Oh, mon cœur était si plein. Nous nous séparâmes sans nous être entendus. Il est si rare dans ce monde que l'on s'entende.